Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le premier jour de ce mois de septembre qui nous amène quasiment l'automne. On sait que l'été est fini quand on parle de l'effet boule de neige qui nous mènerait à une deuxième vague de COVID. Avez-vous remarqué notre changement de vocabulaire? Ça pète pas mal notre bulle, ça, hein? On va parler de ça ce matin en première heure d'émission, de ce relâchement qui a été dénoncé hier fortement par le premier ministre François Legault lui-même, par son ministre de la Santé, Christian Dubé. On va écouter d'ailleurs, si vous le voulez bien, juste pour nous remettre un peu en tête les mots du premier ministre. Son inquiétude était palpable hier quand il nous a rappelé qu'on voulait pas revenir à ce qu'on a connu au cours des derniers mois.
Pensez d'abord à nos enfants. Il faut que nos enfants restent à l'école, là, au moins jusqu'à Noël. Donc, je veux pas être obligé de recommencer le confinement.
Non, on veut pas ça, c'est sûr. Hein. Je pense que l'idée d'être reconfiné, juste cette idée-là nous fait capoter. Je sais pas vous, mais sincèrement, juste l'idée de redire à tout le monde, OK, tout le monde retourne à la maison, ça se pourrait juste pas. Je pense que c'est clair qu'il faut ici faire preuve de responsabilité citoyenne, tout le monde, puis se dire, OK, est-ce que mon attitude est correcte? Est-ce que je le porte, mon masque? Est-ce que je me lave assez les mains? Est-ce que je respecte le 2 mètres? Sur le 2 mètres, la distanciation, je pense qu'il y a véritablement des gros efforts à faire. Et ils sont tellement prêts à nous encourager à faire des efforts que ce matin, à l'émission de mon collègue Paul Arcand, le ministre de la Santé, il n'est pas allé de main morte. On comprend que les amendes pourraient pleuvoir.
On ne voulait pas aller là parce que je pense qu'on s'est fié jusqu'à maintenant à la bonne discipline des Québécois. Mais quand je vois le fameux vidéo du karaoké, là, juste dans nos cas d'aujourd'hui, il y a un autre 12 cas qui est inclus dans ceux-là qui nous vient du karaoké de Québec, en plus de ceux qu'on avait annoncé hier. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à des pénalités? J'ai parlé à Mme Guilbeault hier pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, parce que comme je l'ai mentionné, dans ça, là, il y a des actes que je dirais qui sont pénalisables. C'est vraiment là de l'irresponsabilité. Je peux pas croire que les gens prennent le risque de faire ce qu'ils ont fait dans les derniers jours dans ce bar-là. Là, c'est assez facile. Il y a une vidéo là qui est en ligne là, où on voit les gens faire ce qu'ils doivent pas faire. Dans ce cas-là, on est en train de regarder là qu'est-ce qu'on peut faire comme amende pour ça, là.
Bon, vous avez entendu, on va regarder quel genre d'amende on va mettre au bout de ce genre d'attitude-là. Bon, on parle du karaoké, on a parlé de ces 500 personnes là qui avaient été suivre des cours de samba. On parle de mariage aussi. C'est pas tellement la rentrée scolaire qui cause problème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas assez de données. Il y a peut-être une dizaine de cas ici et là au total dans les écoles du Québec. Fait que c'est pas la rentrée scolaire, c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances comme si c'était la fin des problèmes reliés à ce virus. Or, c'est loin d'être le cas. Pour en discuter, François Marquis, docteur chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est avec nous. Bonjour, docteur Marquis.
Bon matin.
Hier, François Legault et Christian Dubé, ce matin, Christian Dubé qui parle d'amende, tout ça pour nous rappeler que le party n'est pas fini. Là. C'est-à-dire
non,
que,
fait...
ouais, voilà, il faut éviter d'en faire, justement.
ça va être un long party de COVID. Puis ça, je pense que c'est un élément, c'est que les gens ont comme dans leur compréhension qu'ils ont déjà fait les efforts, que ça a fonctionné et que donc le virus est parti. Et le virus n'est pas parti. Je pense qu'il y a eu un élément un peu de désensibilisation. À force d'en entendre parler, les gens semblent moins réagir. À force d'avoir entendu parler de distanciation sociale, on dirait que les gens réagissent moins. Et là, il y a des groupes de personnes qui décident que les règles ne s'appliquent pas à eux autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les éclosions ou la deuxième vague, c'est par ces gens-là que ça va commencer. Ça sera pas par des cas isolés, parce que les cas isolés sont faciles à attraper, puis vont contaminer peu de personnes. Le problème, c'est quand on a un gros groupe comme ça, qui va passer en dessous du radar, puis que là, on va avoir 8, 12, 15, 20 cas, qui eux autres vont s'en aller dans des endroits différents, et là, boum, on va avoir une beaucoup plus grosse éclosion. Et plus l'éclosion est grosse, plus elle est difficile à contenir.
On s'en est déjà parlé, vous et moi, Dr Marquis. Puis je pense que les auditeurs sont bien au courant de ce qui a été dit, que les prochaines semaines seront critiques. Christian Dubé, quand il a présenté son plan il y a 2 semaines là, pour justement prévoir cette espèce de deuxième vague, il nous avait expliqué son espèce de plan de 6 semaines. Bon. Ils l'ont rappelé hier, là. François Legault l'a dit, les prochaines semaines vont être extrêmement critiques. Il faudrait pas que ce relâchement amène un retour en force de ce virus-là. dont on a quand même appris certaines choses là, au cours des dernières semaines. D'après vous, là, est-ce que les gens vont être assez responsables pour entendre ce message du gouvernement là?
Bien, je l'espère de tout cœur, parce que sinon notre vie dans le système de santé va redevenir infernale. Mais je pense que c'est important de ressaisir les gens, de redémontrer que c'est toujours une priorité sociale. Ce qu'on a fait à date n'a pas pire fonctionné pendant l'été. Je pense que honnêtement, on a réussi, disons, à éviter deux opportunités de deuxième vague, c'est-à-dire le retour des vacances de la construction. Ça, personnellement, moi, ça m'inquiétait beaucoup. Et les grosses fêtes, là, Saint-Jean, Fête du Canada, toutes ces choses-là. Ça, on a évité ces deux moments-là où on aurait pu s'attraper une deuxième vague précoce. Le prochain défi, ben, c'est la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire, c'est pas tant la rentrée scolaire qu'il faut pointer du doigt. C'est le fait qu'à l'automne, les vacances vont terminer, les gens vont retourner au travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont maintenu le travail à domicile. Ça va aider. Il y a quand même tous ceux qui doivent retourner à l'école. Et là, ça va du préscolaire jusqu'à l'universitaire. Et naturellement, on peut pas parler de la garderie par correspondance. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à l'école primaire par correspondance. Donc, ces gens-là doivent revenir ensemble. C'est notre prochain défi. C'est tout à fait réalisable, mais il ne faudrait pas de faire en sorte... Là, présentement, on est en train de coordonner la rentrée scolaire. Il ne faudrait pas qu'on se ramasse avec deux, trois grosses éclosions à gérer en même temps. Puis là, ça pourrait là, bousiller tous les efforts qui sont faits.
Oui. Vous dites que c'est un peu le temps de se ressaisir. Avez-vous l'impression que mettre des amendes, puis c'est la question qu'on pose aux auditeurs en cette première heure d'émission, est-ce que des amendes pour essayer de freiner ce relâchement généralisé, ça va avoir un effet, vous pensez, Dr Marquis?
Bien, ça va avoir un effet sur les organisateurs. Parce que là, présentement, ce que je pense, là, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert au point de vue financier pendant la COVID, puis que là, ils essaient d'organiser des grosses affaires pour se remplumer un peu. Il y a ceux, peut-être, qui avaient des fêtes de famille, des mariages, qui ont repoussé ça, puis que là, ils disent, mais je veux absolument me marier cet été. C'est toutes des considérations personnelles qui sont valables, mais qui malheureusement ont un effet négatif. Je pense que, tu sais, je regardais, là, je suis allé au centre d'achat là, pas plus tard qu'hier, puis il y a quand même des gens qui font pas attention, mais ça prendrait comme 25 policiers dans le centre d'achat pour réussir à contrôler ces gens-là.
Ouais.
Je pense que s'il y a des gros regroupements qui sont dans des lieux privés ou dans des commerces, ça, c'est organisé par quelqu'un. Puis je pense que c'est sur les organisateurs qu'on doit se centrer. Plus que sur monsieur et madame tout le monde qui se promène dans la rue, parce qu'il y en a juste trop, là. Je veux dire, je sais pas comment ça serait réalisable.
Oui, puis ça risque de créer un mouvement encore plus fort de tous ceux qui sont contre. On a quand même vu des manifestations, des opposants à l'obligation du masque ou ne serait-ce qu'au port du masque dans des endroits clos. Fait qu'imaginez, là, si on se mettait à dire... Là, on va mettre des amendes à toute personne qui respecte pas le 2 mètres, par exemple.
Là, c'est ça. Puis là, après ça, c'est est-ce que j'étais à 1,95 m? Est-ce que j'étais à 2,05 m? Il y a tout ça. Mais effectivement, bon, on vit malheureusement dans une société où il suffit que quelqu'un dise blanc pour qu'on ait des manifestations pour dire le contraire. Puis que si on dit rouge, il y a des gens qui vont dire bleu. Puis bon, c'est correct, c'est le fun, le droit de parole, puis c'est le fun, le droit de s'exprimer, mais là, on a quand même une problématique sociale qui touche tout le monde. Et je pense qu'à date, on est travaillé sur un paradigme de compréhension, d'ouverture à l'autre, de tissu social. Si on met des amendes individuelles, je pense qu'on rentre dans un paradigme de confrontation. Puis je me pose la question, est-ce que c'est vraiment là où on veut aller, quand en réalité, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se serre les coudes?
Oui. En même temps, est-ce que les gens vont vraiment être convaincus en entendant, par exemple, que le Québec a enregistré 140 nouvelles contaminations au virus hier? Là, on est à près de 62 500, là, à peu de choses près. C'est quand même pas mal de monde qui ont attrapé la COVID. Bon, ils n'ont pas tous fini dans votre section aux soins intensifs, heureusement, Dr Marquis. Et c'est peut-être là où je me dis, bon, peut-être que les gens se disent, oui, il y a des gens qui l'attrapent, comme on attrape la grippe, puis on s'en remet. Donc, ça nous amènera pas forcément à l'hôpital. On n'arrêtera pas de vivre pour ça, finalement. Et hier, c'est un peu ce que le ministre de la Santé disait. Il confirmait que oui, il y avait des nouvelles contaminations, mais heureusement, la situation des hospitalisations est plutôt stable. Vous, avez-vous vu, puis vous, je pense que vous le disiez d'ailleurs la semaine dernière, François, c'est assez stable aussi dans votre unité là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Oui, présentement, en fait, notre vrai défi, c'est plus de gérer là, toutes les autres maladies que la COVID. Là. Le problème avec le raisonnement de c'est pas à moi que ça va arriver, ben malheureusement, j'ai plein de jeunes qui pourraient vous témoigner qu'attraper une COVID à 20 ans, ça se peut que ça aille vraiment mal.
Ouais.
Et il faut pas oublier, il y a la mort est un problème, les handicaps permanents ou à long terme, c'est une autre affaire. L'autre chose, c'est que le simple fait d'être un vecteur de contamination, la problématique du jeune en santé qui a peu de chances de mourir ou d'avoir un problème à long terme, c'est que transitoirement, il est quand même le vecteur du virus et il peut le refourguer à ses parents, il peut le refourguer à ses grands-parents, oncles, tantes ou à des gens là des inconnus. Mais c'est là le problème, c'est on respecte les règles de sécurité routière parce qu'on veut pas avoir d'accident, mais aussi parce que on veut pas écraser un enfant qui traverserait la rue parce qu'on a roulé en sauvage. Il y a le danger à soi, mais si moi je roule puis que je fais pas attention dans une zone scolaire ou autour d'un parc puis que je passe sur des enfants, ben moi comme personne je serais pas brisé là dans un accident comme ça. Il m'arrivera rien, mais c'est indéfendable de faire quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un peu le même principe. On fait attention dans les zones scolaires, on fait attention quand on conduit autour des parcs, on est des citoyens responsables, mais c'est une nouvelle couche de responsabilité citoyenne, puis on veut pas être le vecteur d'une maladie qui pourrait potentiellement tuer nos co-citoyens.
Mais là, il y a une incohérence avec le fait d'avoir permis une rentrée scolaire quasi normale aux enfants jusqu'en secondaire 5, là, ou à peu de choses près, alors qu'au cégep puis à l'université, puis on va y revenir après la pause, si vous voulez bien, Dr. Marquis, alors qu'au cégep, à l'université, c'est pas de cours, c'est carrément une rentrée virtuelle. Il y a là quelque chose que j'ai de la misère à saisir vraiment complètement, mais on va y revenir. On va poser la question à nos auditeurs et auditrices. Est-ce que vous pensez que des amendes vont réussir à freiner ce que le premier ministre François Legault a appelé ce grand relâchement sanitaire là, au Québec qui pointe vers un risque accru de récidive, là, de deuxième vague de la COVID? Des amendes, ça vous ferait-tu une différence pour vous? Est-ce que ça vous forcerait définitivement à respecter le 2 mètres puis à porter votre masque? 514-790-9850. Et de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous donne la parole tout de suite après ceci. Alors, le gouvernement, devant cette espèce de relâchement populaire, là, le fait que tout le monde se sente un peu plus lousse d'agir par rapport aux mesures qui nous ont été répétées ad nauseam depuis les derniers mois, puis François Legault les a rappelées encore ces règles pas plus tard qu'hier, les voici.
De respecter les règles. Donc, garder une distance avec les autres personnes, porter un masque quand on est à l'intérieur, se laver les mains régulièrement, puis dans les rassemblements privés, que ce soit famille, amis, se limiter à 10 personnes.
Avez-vous remarqué le ton du premier ministre? On aurait dit un extrait de la période où il nous parlait tous les jours en confinement. C'est le ton de sa voix, là, il y avait vraiment cette gravité. Est-ce qu'on a raison, donc? Est-ce qu'il a raison, surtout, d'être à ce point inquiet? Bien, je pense qu'il faut se tourner vers les instances scientifiques, les médecins, entre autres. Avec nous, le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir là-dessus, d'ailleurs. Je commence avec vous, Robert. Bonjour. Est-ce que vous pensez que des amendes, ça aide à stopper ce relâchement?
Oui, bonjour, Isabelle.
On vous écoute, Robert.
Ah, OK, vous m'entendez, parfait. Ben, pour les amendes, moi, dans mon cas, je pense que c'est... On est rendu... Je vais choisir mes mots comme il faut, là. En 1919, là, la grosse pandémie qu'il y a eu, là, il n'y avait pas d'informations qui circulaient comme qu'il y a aujourd'hui. Je comprends pas aujourd'hui que les gens écoutent pas les consignes qui sont que le gouvernement nous donne.
Donc, vous, êtes-vous en faveur de ces amendes que pourrait imposer le gouvernement?
Ben, on est quasiment rendu là. Okay. Je veux dire, moi, j'ai des amis à moi, là, je regarde, ils viennent chez moi, je vois même pas le masque accroché après leur miroir, ces choses-là, comme qu'on dit tantôt, on dirait que, ah, tout d'un coup, c'est parti, là, l'été, c'était beau, mais ça va revenir, la deuxième vague va revenir, et puis, faut prendre nos mesures. Moi, j'ai une mère de 71 ans, je veux pas... lui transmettre ça. Là,
est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la côtoyez, votre maman?
Ben, elle habite en campagne. Moi, je suis à Montréal. Okay. Avant d'y aller, je vais me faire tester. Ce processus, quand même, ça prend quelques jours. Il faut vraiment me faire tester. Puis, je prends mes précautions. Je veux dire, c'est impossible. J'ai des amis qui pensent qu'ils parlent du complot. Là, qu'importe. C'est impossible que ça soit un complot mondial. C'est vrai. Puis la deuxième vague, on se fait aviser. Tous les pays du monde avisent que ça va être encore plus fort. Il faut encore prendre plus. Je veux pas me faire reconfiner comme au mois de mars. Ouais. Déjà, j'ai même fait décontaminer mon appartement, moi.
C'est-à-dire?
Pour pas prendre... le docteur, je peux peut-être, ce qui est en ligne, là, j'ai fait décontaminer mon appartement à une compagnie qui font à l'hydrogène de peroxyde. Là,
Oui.
Ben, il se servait du même procédé pour décontaminer les masques usagés dans les hôpitaux. Là. Enfin, j'ai fait mes recherches là-dessus. Et puis, j'ai
combien ça vous
compagnie.
A coûté, Robert? Ça vous a coûté combien?
Il charge 75$. Puis ils viennent deux fois, ils disent que ça prend deux traitements par semaine et puis ça reste souvent les 12 heures la solution. Fait que j'ai pris toutes mes précautions. Je me suis informé sur justement le système de décontamination. C'est le même système que tu utilises dans les laboratoires et les hôpitaux. Fait que j'ai pas pris de chance. Je prends pas de chance, là. Je veux pas me ramasser comme compteur au mois de mars. Et si les gens écoutent pas.
Mais ça veut dire que vous n'avez pas de visite chez vous à part vous, là, si vous décontaminez
comme
ça.
J'ai trois amis qui viennent chez moi. Uh-huh. C'est des trois amis que je sais qui sont responsables. J'ai un de mes amis qui vient, quand il vient, il y a son masque. Ben, j'enlève ton masque, là, t'es correct, là. Uh-huh. Tu sais, mais je veux dire, j'essaie vraiment de je fais ma part, là.
Mais êtes-vous à deux mètres quand vous lui dites, enlève ton masque, t'es correct? Parce que voyez-vous, c'est ça le problème. C'est que vous faites décontaminer parce que vous êtes inquiet, puis en même temps, un de vos amis vient voir et dit « Mais voyons, t'es correct. » On ne sait pas si l'autre est correct. On pense qu'on est correct, mais qu'est-ce qu'on en sait si on est correct? C'est ça le problème, je pense.
Je suis un chanceux à Montréal. J'ai une cour à l'extérieur pour l'été.
Ouais.
Fait que des fois, j'avais deux, trois amis.
Ben oui.
J'ai quand même une grande cour.
Voilà.
Puis on je gardais la distanciation. Mais tu sais, il faut que les gens prennent ça au sérieux.
Tout à fait. Merci beaucoup. Nos lignes sont pleines. On va essayer de passer le plus grand nombre possible. Mais c'est intéressant, Robert. A fait décontaminer son logement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a jamais eu autant d'entreprises de nettoyage qu'en ce moment. Nancy, bonjour.
Oui, bonjour.
Des amendes pour vous, là, est-ce que ça aurait un effet sur ce relâchement?
Bien, moi, je pense que oui, ça aurait un effet. Mais moi, je pense que le discours fait en sorte qu'il y a un relâchement. Moi, dans mon cas, je suis quelqu'un qui était vraiment prudente. Là, je le suis encore quand même, mais moins qu'au début. Parce que, l'élément déclencheur, je dirais que c'est le retour à l'école, dans mon cas. Parce que c'est comme, je me dis, coudonc. Toutes les jeunes retournent à l'école avec les risques qu'on connaît, mais finalement, ça ne doit pas être si grave que ça. Puis même les jeunes qui sont des ados, c'est un peu comme ça aussi qu'ils réagissent à ça. Ils se disent, coudonc, finalement, tu sais, on exagère peut-être tout ça, ils nous retournent tous à l'école, ça ne doit pas être si pire.
Voilà, c'est ça.
Cette pense, elle a un impact sur le niveau de prudence, là, le lavage des mains, la distance qu'on garde. L'effet est là, je pense.
Vous avez raison.
C'est pas incohérent, là, à quelque part.
Je pense que vous avez raison, Nancy. C'est un peu, je me sens exactement comme vous. Moi, j'essaie de comprendre, puis c'est un peu ce que je disais. Merci beaucoup, Nancy, de votre appel. C'est ce que je disais tout à l'heure au docteur François Marquis. François, quand on nous dit, l'école, là, le CPE, ça y est, de la maternelle jusqu'en sixième année, il y a des bulles. Ensuite, au secondaire, il y a juste secondaire 4, 5, faites un peu plus attention. Mais je veux dire, après, t'as le cégep, université, là, pas de cours. Tout le monde est en ligne, puis je te dis que ça marche pas. J'en ai deux, là. J'en ai une au cégep, j'en ai une autre à l'université. C'est épouvantable. Les universités n'étaient pas prêtes pour ça. On se demande comment ça se fait. Ça fait 6 mois qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir. Je peux pas croire. Écoute, il y a que des bugs. Bref, tout ça pour dire pourquoi les plus jeunes, les 17 et moins, les 16 et moins, ont de l'école en personne, et les 17 et plus, c'est à distance.
Ben ça, je pense que c'est un bel exemple là, de regarder au point de vue de l'apprentissage, première des choses. Moi, si je me rappelle, mes classes à l'université, on était 200 dans notre classe en médecine, puis c'était une petite classe. Hein. Ma femme, quand elle a fait cette biochimie, elle avait des cours où il y était plusieurs centaines dans un même cours. C'est que ça, je pense que par la structure universitaire des cours avec des centaines de personnes dans les auditoriums, là, on a compris que ça, c'était pas l'idée du siècle. L'autre chose, c'est qu'au niveau de l'apprentissage à l'université et au cégep, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. L'apprenant est beaucoup plus mature et habituellement très à l'aise aussi avec la technologie et son développement. L'école, chez le jeune, aussi l'impact du développement social, la socialisation, l'apprentissage de la vie en société qui va pas se faire à travers un ordinateur.
Ouais.
Donc, je pense que c'est, il y a pas juste l'apprentissage de la connaissance, il y a l'apprentissage de la société qui fait en sorte que nos plus jeunes sont envoyés à l'école. L'autre chose, je ferais le parallèle de la rentrée scolaire avec la pratique d'un sport dangereux. Un sport dangereux, ma sœur, son chum, sont instructeurs de parachute. Hein? Y a-t-il un sport qui, techniquement, peut être aussi dangereux que le parachute? Et pourquoi c'est sécuritaire? C'est que c'est encadré par des gens qui respectent des règles, du matériel de qualité, et les gens savent que dans ce sport-là, s'ils font pas attention, ben, il n'y aura pas une grosse deuxième chance et que ça peut détruire une industrie au complet si y avait un relâchement.
Mm-hmm.
Donc, dans le parachute, comme sport, il n'y a aucun relâchement et c'est toujours la qualité maximale qui est exigée pour tout. On est dans le même paradigme au niveau de l'enseignement. On veut pratiquer l'enseignement, on veut être en mesure que nos jeunes aillent à l'école, mais il y a un élément de risque de plus, maintenant, qui s'appelle la COVID, et on y prie avec. Donc, changeons les règles. C'est pas que c'est soudainement sécuritaire puis que tout est revenu comme avant. Et on est là l'illusion que c'est réglé, on retourne à la vie courante. C'est non, on retourne à l'école avec une série de règles. Et je peux déjà prédire que les règles vont être modifiées juste parce qu'on va apprendre à vivre avec le virus. Peut-être qu'à certains niveaux, les règles vont être resserrées. Peut-être que pour d'autres éléments, les règles vont être relaxées. Mais c'est un apprentissage que notre société est en train de faire, de vivre avec une nouvelle réalité. Et voyons ça comme la pratique d'un sport dangereux. Ça se fait, on peut avoir du plaisir, mais il y a des règles qu'il faut respecter.
Ouais. Mais en même temps, tu dis, bon, pour les plus jeunes, il y a moins de risques. Puis pour les post-ados...
Non, c'est pas qu'il y a moins de risques. Les risques sont différents et on fait une gestion de risque, une gestion de risque sociale. On regarde chez le jeune, on se dit, oui, le jeune, s'il attrape le COVID, a moins de chances d'avoir des problèmes. Ça, c'est un point bénéfique qui favorise le retour. Mais d'un autre côté, ce qui rentre aussi dans la balance, c'est le développement personnel, intellectuel et social qui est aussi un besoin. On veut des jeunes en santé, mais on veut des jeunes qui ont eu un développement social et affectif adéquat.
Je comprends. En même temps, tout à l'heure, tu me parlais du vecteur, du fait qu'on pouvait tous être un vecteur, que le jeune pouvait être un vecteur également, puis que c'était ça qu'il fallait... C'est ça qu'il fallait considérer pour être plus responsable et ne pas relâcher, ne pas céder
et
à ce relâchement. Les jeunes, c'est des vecteurs. Puis quand on voit la façon dont ça se fait, je veux dire, j'ai plein de gens qui m'écrivent là, sur isabelle@985fm.ca et même sur 98985 par texto et qui me disent qu'ils ont plein d'exemples de jeunes qui sont allés à l'école, puis les profs sont pas à 2 mètres, les parents sont pas à 2 mètres, ça s'embrasse, ça se fait des câlins. C'est ça l'école aussi, c'est ça la sociabilisation à l'école.
Effectivement, et là, on est dans la gestion de risque. C'est que l'idée, c'est qu'on sait qu'il va en avoir des éclosions dans les écoles. Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Le concept, c'est d'avoir les yeux ouverts et de réagir promptement quand on va les avoir. Depuis le début, toute la gestion de la COVID, que ce soit au Québec ou partout dans le monde, il n'y a personne qui n'a jamais eu la prétention de réduire le risque à zéro. Ce qu'on veut, c'est minimiser le risque et avoir une marge de manœuvre pour pouvoir isoler les zones qui vont devenir chaudes, plutôt que de perdre le contrôle et de se ramasser dans une deuxième vague. Et on rend l'école plus sécuritaire, mais on ne peut pas la rendre absolument sécuritaire. Et pour chaque groupe d'âge, on pèse le pour et le contre. Et je sais que dans l'Est de Montréal, le sud de l'Est de l'île de Montréal, a eu déjà tendu la main avec toutes les écoles de son territoire pour regarder leur plan, justement pour se préparer. Là, qu'est-ce qui arrive? Qui vous appelez? À quel numéro? Qu'est-ce qu'on fait si vous avez une éclosion dans votre école? Et les écoles les plus vulnérables de notre territoire ont même des membres du personnel du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal dans leurs murs pour les aider. C'est qu'on le sait que ce risque-là existe. Mm-hmm. On sait que les enfants sont des enfants et qu'il n'y a pas de... Il n'est pas possible de tout contrôler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se met des redondances pour être en mesure d'isoler les éclosions quand ils vont apparaître.
Mais on n'aurait pas pu faire la même chose pour les cégepiens, par exemple, ou pour les universitaires. Je veux dire, c'est des adultes, là, dans le fond. Ils sont encore plus à même de pouvoir respecter ces règles-là.
Bien, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé à chaque étage les choix qui ont été faits, parce que... J'étais pas là.
Non, c'est sûr, mais je veux dire, d'un point de vue, tu sais, d'expert, François, comme médecin, tu te dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu finalement inclure tout le monde, tu sais, plutôt que faire deux catégories où là, ça mêle le monde, puis ça finit par avoir, j'en reviens au relâchement, tu finis par te dire, ben, coudonc, le primaire, secondaire, ils peuvent, les autres, ben, qui s'arrangent, mais nous, on va faire comme...
Je pense que ce qui est arrivé dans la logique des universités puis des cégeps, c'était vraiment... La possibilité, le fait qu'au cégep et à l'université, t'es beaucoup plus là pour acquérir des connaissances que de la sociabilité, que c'est des gens qui utilisent massivement le transport en commun, que c'est aussi des gens, souvent, les cégeps, les universités, il y en a beaucoup dans les grandes villes, c'est que ça draine beaucoup de gens de la banlieue vers la ville. Je pense que toutes ces considérations-là, on les a plus considérées comme des travailleurs dans le paradigme là du travail à distance, que comme des étudiants dans le paradigme de l'école primaire ou secondaire.
Écoute, j'ai une hypothèse là-dessus, moi, parce que je regardais un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux un peu partout. Mon hypothèse, c'est que finalement, j'ai l'impression que les syndicats de l'éducation, les syndicats d'enseignants, de profs, sont plus forts au cégep à l'université qu'au primaire puis au secondaire. Parce que je vais te dire, il y a même des cours au cégep et à l'université en ce moment, où on va dire aux étudiants, venez en classe à l'université, mais le prof est à distance. Fait que tu vas écouter un tutoriel dans une classe, je te jure. Je te jure. C'est niaiseux de même. Musical, fait que le seul que tu protèges ici, c'est qui? C'est le prof.
Ouais, ça, j'avoue que d'un point de vue médical, c'est... J'aurais, moi, de la difficulté à avoir la logique médicale dans une approche comme ça. Là.
Autre ineptie. Je lisais, là, tout le monde y va un peu de ses recommandations puis ses suggestions, comment gérer les gouttelettes, comment, tu sais, pour l'école, comment on gère l'autre à côté. Fait qu'il y en a même qui ont suggéré qu'il y ait, que les élèves aux primaires, secondaires pourraient porter le masque chacun leur tour. Comme pendant une heure, c'est les élèves la première rangée, l'heure d'après, là, donc ceux de derrière, ils enlèvent le masque. Ensuite, l'heure d'après, ben, c'est ceux de devant qui n'ont pas de masque. Tu comprends? Chacun, là, je me disais, ben, c'est parce que c'est la même bulle, puis c'est les mêmes gouttelettes. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on a comme perdu. La théorie des gouttelettes, là, elle s'est perdue quelque part, on dirait.
Oui, mais ça, c'est malheureusement une des choses que... Ça, même, je l'ai vu à l'hôpital. Il y a une directive qui émane d'en haut pour dire quelque chose, puis on dirait qu'à chaque étage, quelqu'un va en faire plus que ce qu'on lui demande. T'sais, on dirait que les gens veulent surtout pas se faire dire qu'ils n'en ont pas fait assez.
Ouais.
Là, à un moment donné, à force de mettre des règlements sur des règlements sur des règlements, on arrive avec des affaires un peu étranges qui sont tout à fait inapplicables. Puis je pense qu'à quelque part, aussi, ça, la population voit ça. Puis il y a quand même la règle du gros bon sens. Puis à un moment donné, les gens, tu sais, vont se dire qu'il y a des limites. Et je pense qu'il est là l'équilibre. C'est que si on veut pas perdre la confiance des gens, il faut être capable d'expliquer pourquoi on fait telle mesure. Et il y a des mesures qui s'explique mieux que d'autres.
Voilà.
Ça, c'est la façon gentille de le dire.
Voilà, merci. François, tu restes avec nous. On conclura ensemble tout à l'heure. Après la pause, on va parler à un spécialiste en ce qui concerne le fameux vaccin, parce que là, on parle de notre espèce de sentiment de sécurité, dans le fond. Là. On a l'impression que ce relâchement, il est dû à quoi? Il est dû au fait qu'on a l'impression qu'on est un peu moins en danger qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 5 mois. Le fait qu'on parle beaucoup d'un vaccin, puis là, il y a cette course vive au vaccin, là, qui s'est... avec Donald Trump qui rajoute à tout ça en disant qu'ils l'ont, les Russes là-dedans. Bref, on va en parler de ça. Sans doute que le vaccin contribue à vous faire sentir peut-être moins à risque. On en parle tout de suite après.